Leçon numéro 79. Jésus entre à Jérusalem. Assalamu alaikum, amis qui êtes à l'écoute. Nous vous saluons au nom de Dieu, le Seigneur de paix, qui veut que chacun comprenne et se soumette au chemin de la justice qu'il a établi et qu'il ait pour toujours la paix véritable avec lui. Nous sommes heureux de pouvoir revenir aujourd'hui vous présenter votre émission « Le chemin de la justice ». Dans notre dernière leçon, nous avons vu comment Jésus a ramené à la vie un cadavre qui avait été dans la tombe pendant 4 jours. Le pouvoir de la mort n'était pas un problème pour le Seigneur Jésus, car il était lui-même la résurrection et la vie. Aujourd'hui, nous voulons continuer dans le Saint-Évangile et voir comment Jésus est entré à Jérusalem, la ville où il allait être tué. Ce qui est étonnant dans tout cela, c'est que Jésus savait tout ce qui allait lui arriver. Il savait que les chefs religieux juifs et les Romains allaient le torturer et le clouer sur une croix, mais cela ne l'a pas arrêté de se rendre à Jérusalem. À ce sujet, l'Évangile dit,
Luc chapitre 9, verset 51, « Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la ferme résolution de se rendre à Jérusalem. »
Et comme il marchait vers Jérusalem, Jésus a dit à ses disciples.
Luc chapitre 12, verset 50. Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien je suis pressé qu'il soit accompli.
Pourquoi Jésus a-t-il pris la ferme résolution de se rendre à Jérusalem, pour se livrer entre les mains de ceux qui voulaient le tuer? Cela paraît incroyable. Si vous saviez que dans une certaine ville, il y a des gens qui veulent vous torturer et vous tuer, est-ce que vous allez partir résolument dans cette ville? Certainement pas. Et pourtant, c'est ce que Jésus le Messie a fait, parce qu'il savait que mourir comme le sacrifice qui ôte le péché était ce pourquoi il était né. Jésus n'est pas venu dans le monde pour rechercher son propre plaisir, mais pour réaliser ce que les prophètes de Dieu avaient écrit longtemps auparavant à son sujet, c'est-à-dire que le Messie allait souffrir et verser son sang hors de Jérusalem, sur la montagne où Abraham avait offert le bélier à la place de son fils. Il fallait que le symbolisme du sacrifice du bélier soit réalisé en Jésus. C'est pourquoi Jésus est allé à Jérusalem, la ville qui, pour lui, était comme une fosse remplie de lions affamés attendant leur proie. Continuons maintenant notre étude dans le livre de l'Évangile. Il est écrit. Matthieu chapitre 21, les versets 1 à 9. Marc chapitre 10, les versets 33 à 34. Luc chapitre 18, les versets 34 à 43. Luc chapitre 19, les versets 39 à 42. Jean chapitre 12, versets 23 à 24. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient angoissés et ceux qui suivaient Jésus étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et se mit à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, le livreront aux païens, se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le feront mourir. Et 3 jours après, il ressuscitera. Mais ils n'y comprirent rien. Ses paroles leur restaient cachées. Ils ne savaient pas ce que cela voulait dire. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit la foule passer et demanda ce que c'était. On lui annonça que Jésus de Nazareth passait. Et il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient en avant lui faisaient des reproches pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna de lui amener. Et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit, « Seigneur, que je recouvre la vue. » Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, en voyant cela, rendit louange à Dieu. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici que ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si tu connaissais, toi aussi, en ces jours, ce qui te donnerait la paix, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi et l'on disait, « Qui est celui-ci ? » Les foules répondirent, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des merveilles qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent, « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ?»« Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent et cherchèrent les moyens de le faire périr. Ils le craignaient parce que toute la foule était frappée par sa doctrine. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Une voix vint alors du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai de nouveau. La foule qui se tenait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est faite entendre. C'est à cause de vous. Maintenant, c'est le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il disait cela pour indiquer de quelle mort il devait mourir. Arrêtons-nous ici un moment. Nous avons vu comment Jésus est entré dans Jérusalem, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et comment la foule des Juifs l'a loué et l'a applaudi, voulant faire de lui leur roi. Mais le peuple n'a pas compris pourquoi Jésus était entré dans Jérusalem. Même les disciples de Jésus ne se rendaient pas compte de ce qui allait se passer. Ils espéraient que Jésus allait sauver le peuple juif du contrôle de leur ennemi, de l'Empire romain. Mais ce n'était pas pour cela que Jésus était venu dans le monde. Il n'était pas venu pour détruire l'Empire de Rome, mais pour détruire l'empire de Satan. Il n'était pas venu ici-bas pour changer ce monde corrompu, mais pour changer le cœur des hommes. C'est vrai, un jour, Jésus le Messie reviendra pour juger les habitants du monde et pour restaurer le monde créé. Mais quand il est venu dans le monde la première fois, il est venu pour mourir comme sacrifice et pour sauver les enfants d'Adam du châtiment qu'ils méritent à cause de leurs péchés. C'est le plan de Dieu annoncé depuis longtemps par ses prophètes. Continuons maintenant notre histoire. Les Écritures disent, Luc chapitre 19, versets 47 à 48, Luc chapitre 20, versets 1 à 19. Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les chefs du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient comment faire, car tout le peuple était suspendu à ses lèvres. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent et lui dirent, « Dis-nous, par quelle autorité tu fais cela ? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité ?» Il leur répondit, « Je vous poserai moi aussi une question. Dites-moi, le baptême des gens venait-il du ciel ou des hommes ?» Mais ils firent en eux-mêmes cette réflexion. Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en Jean? Si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Alors ils répondirent qu'ils ne savaient pas d'où venait ce baptême. Et Jésus leur dit, moi non plus, je ne vous dis pas en vertu de quelle autorité je fais cela. Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la loua à des vignerons et quitta le pays pour un temps assez long. La saison venue, il envoya un serviteur vers les vignerons pour que ceux-ci lui donnent du fruit de la vigne. Les vignerons le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le frappèrent, l'outragèrent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, « Que ferai-je ? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être le respecteront-ils. » Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent, « C'est lui l'héritier. » Tuons-le afin que l'héritage soit à nous. Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils dirent, qu'il n'en soit pas ainsi. Mais jetant le regard sur eux, Jésus dit, que signifie donc ce qui est écrit? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à porter les mains sur lui à l'heure même, mais ils craignaient le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. C'est ainsi que Jésus a répondu à l'aide de la parabole des méchants vignerons à ceux qui voulaient le tuer. Comprenez-vous la signification de cette parabole? Elle n'est pas difficile à interpréter. Dans cette parabole, le Seigneur Jésus compare Dieu au propriétaire d'un champ. La vigne, c'est-à-dire le champ où on cultive du raisin, c'est la nation d'Israël. Les méchants vignerons, ce sont les chefs religieux des Juifs. Les serviteurs que le propriétaire du champ a envoyés vers les vignerons, c'est-à-dire les serviteurs que les vignerons ont méprisés et maltraités, ce sont les prophètes. Et le fils du propriétaire du champ que les vignerons ont tué, c'est le Messie, Jésus. Ce n'est pas difficile de comprendre pourquoi les sacrificateurs et les docteurs de la loi s'y sont vraiment mis en colère. Ils savaient très bien que Jésus parlait d'eux. Il savait que Jésus était en train de les comparer aux méchants vignerons qui avaient harcelé les serviteurs du propriétaire du champ et qui avaient fini par tuer son fils. Jésus les dénonçait donc comme ceux qui ne tenaient pas compte des paroles des prophètes et comme ceux qui finalement allaient tuer le Messie, le Fils du Très-Haut. Et Jésus leur a non seulement raconté cette parabole, mais il a aussi cité ce qui est écrit à son sujet dans les Psaumes. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Ainsi, Jésus a averti les dirigeants religieux, les informant que quiconque refuse d'accepter le Sauveur choisi par Dieu, ce Sauveur sera finalement son juge. Ah, chers amis, pardonnez-nous, mais notre temps est écoulé. Merci de nous avoir écoutés. S'il plaît à Dieu, dans la prochaine leçon, nous continuerons l'histoire étonnante de Jésus et des dirigeants religieux. Que Dieu vous bénisse et réfléchissez sérieusement à ce que l'Écriture déclare au sujet du Messie quand elle dit
« Il était dans le monde et le monde a été fait par lui et le monde ne l'a pas connu ».